Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Tout au long de cet été, nous vous proposons une rediffusion des meilleurs moments d'Accent d'Europe. Avec une production d'à peine 4 millions de litres par an, Madère est une goutte de vin dans l'océan de la production mondiale. Mais son nectar très racé, qui obéit à un processus de fabrication complexe, s'exporte à 80% dans le monde entier et plus particulièrement en France. Cépage portugais, vinification dans de grandes maisons d'origine anglaise, le Madère échappe pourtant aux petits viticulteurs de l'île qui ne peuvent le produire. C'est un reportage de Frédéric Lebel.
Il faut grimper pour atteindre les vignes en terrasse de Duarte Caldera. D'un côté la mer, de l'autre la montagne. Le paysage est sublime, mais être viticulteur sur l'île est un combat.
On a beaucoup de problèmes pour cultiver la vigne sur l'île de Madère. Tout d'abord, nos vignes se trouvent tout près de la côte et de la mer. Et le vent, chargé en sel marin, vient brûler les feuilles, mais aussi les fruits. Un autre problème, c'est la montagne, juste là derrière. Parfois, il y a des roches qui tombent, mais il peut y avoir aussi des glissements de terrain. Ça peut détruire nos vignes, et puis l'irrigation est complexe, sans compter que les terrains en terrasse ne sont pas faciles d'accès. C'est impossible de travailler avec une machine, on ne peut s'y rendre qu'à pied.
En moyenne, les exploitations ne font pas plus de 0,3 hectares perchés sur des terrasses soutenues par des murs en pierre. Le raisin est cueilli à la main et pour les vendanges, Duarte Caldera emploie 11 personnes. Le vin de table qu'il produit est donc cher. Dans sa cave familiale, Duarte garde quelques 1000 bouteilles de vin de Madère pour sa consommation personnelle. Le Madère, un vin à la fois fortifié et chauffé, donc difficile à produire en quantité pour un petit propriétaire comme lui. D'ailleurs, le gouvernement régional a passé il y a un an et demi une loi qui interdit aux petits agriculteurs de commercialiser leur vin de Madère.
Ici, le gouvernement protège les grands. Aujourd'hui, pour un petit producteur comme nous, c'est très difficile de faire du vin de Madère, voire impossible. C'est dur parce qu'on nous impose une quantité minimum de production de 70 000 litres, ce qui veut dire qu'il faudrait récolter entre 70 et 80 tonnes de raisins. En plus, il vous faut de grandes installations, des équipements qui coûtent au bas mot un demi-million d'euros.
Les grandes dont parle Duarte Caldera, ce sont les prestigieuses maisons tournées vers l'exportation. Blandise, fondée il y a plus de 200 ans par une famille anglaise du Dorset et de celle-là. Elle achète ses raisins auprès de 600 petits viticulteurs. Dans son chai du centre de la ville de Funchal, on retrouve Ricardo Tavares, son directeur commercial.
Donc on va rentrer par le site Warin, travailler nos tonneliers. On a toujours 4 tonneliers qui travaillent toute la journée pour la maison. En fait, le vin de Madère fait son élevage en barrique, toujours. Le bois est toujours usagé. On ne veut pas du bois nouveau parce qu'il va trop marquer le vin avec des notes de la vanille qu'on souhaite ne pas avoir. Donc pour nous, le fût est un filtre naturel qu'on utilise pour mener le vin dans la direction qu'on souhaite.
De vieux tonneaux dont le bois de chêne laisse passer l'oxygène, une fermentation stoppée par l'adjonction d'alcool pur et surtout un long chauffage. Le Madère a une histoire qui remonte à la colonisation portugaise et une fabrication singulière.
Madère est le contraire de tout ce qui existe pour tous les autres vins. Les autres vins, on les garde dans des conditions froides, on ne l'expose pas à l'oxygène. À Madère, on fait exactement le contraire. Nos vins sont exposés à l'oxygène. Ils sont exposés dans les combles, il fait très chaud. Et ce sont des vins qui sont toujours en contact avec de l'oxygène et du bois. Et c'est ces trois critères-là qui mènent donc le vin dans la direction qu'on souhaite avoir et qui font le Madère.
Si la France est le premier client, toutes marques confondues, des vins de Madère, avec un quart des ventes, le produit n'a pas bonne presse dans l'Hexagone. Ne dit-on pas d'un vin qu'il est madérisé lorsqu'il est trop oxydé? Il y a du travail pour le service marketing.
Le Madère a une image un peu péjorative associée à la sauce Madère, à la culinaire. C'était Escoffier qui a installé la sauce Madère comme un produit d'appel pour le produit. Ça reste d'ailleurs le plus grand marché pour les vins de Madère en France. Il y a, disons, 20 ans qu'on est en train d'essayer de changer cette image, mais ça va prendre du temps.
Dans la cave et derrière de lourdes grilles, la maison Blandis garde une bouteille de 1755 et bien d'autres, un peu plus récentes. Le vin de Madère se conserve bien.
Et finalement, le coffre dont je vous ai parlé. Et là, vous voyez, 1915, 1963, 1914, 1882, 1958. Donc il y a plusieurs millésimes. Et donc, on a une maison qui vraiment a toujours eu cette vue à long terme et qui souhaite garder donc ces vieilles perles pour l'avenir.
Sac, demi-sec, demi-doux ou doux, la gamme semble aussi longue que les années de conservation.
Le reportage de Frédéric Lebel que l'on retrouve. Alors Frédéric, on l'entendait, la production du vin de Madère est vraiment concentrée entre les mains des grands négociants de l'île.
Oui, tout à fait. Il y a une petite dizaine de négociants, dont quelques grandes marques comme Blandis, Enriquez Enriquez, Justinos ou Barbeto. 87% de la production de l'île sort de ces grandes maisons et le vin de Madère est vendu à 80% en Europe. On a visité le chai le plus prestigieux et traditionnel de Blandis où le vin est chauffé et vieilli naturellement dans un grenier en fût de chêne. Mais il y a toute une autre production majoritaire où le vin est chauffé dans des cuves en inox à 45 degrés et le processus de vinification ne prend pas des années mais 3 mois et c'est ce qu'on appelle l'essentiel.
Alors en ce qui concerne la Loire régionale qu'on évoquait tout à l'heure, qui ne permet pas aux petits producteurs de produire du vin de Madère, est-ce qu'elle a changé quelque chose depuis l'année dernière?
Disons que c'est une barrière légale. Dans les faits, les installations nécessaires au chauffage et à la production de ce vin ont toujours été un obstacle, tout comme l'importation d'alcool pur qui entre dans la fabrication du vin de Madère pour stopper la fermentation. Donc les petits producteurs revendent majoritairement leurs raisins aux grandes maisons ou bien ils font du vin de table en quantité limitée comme Duarte Caldera. Ce vin de table coûte cher à produire et ne permet pas de répondre à la demande. L'île importe 5 millions de litres de vin, surtout en provenance d'Europe. Ce qu'expliquait Duarte Caldera, c'est que la taille des exploitations très morcelées en terrasse ne lui permet pas de rentabiliser sa production. Elle complique les aides européennes. Ce qu'il faudrait, dit-il, c'est procéder à un remembrement sur l'île.
Merci Frédéric. Un reportage réalisé avec le soutien de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de l'Union européenne. Des cours d'œnologie dès l'école primaire. C'est l'idée un peu étonnante d'un sénateur italien. Dario Stefano, parlementaire originaire des Pouilles, a présenté une proposition de loi pour que les écoliers apprennent à mieux connaître le vin dès leur plus jeune âge. Mais attention, il s'agit plus de la culture du vin, Mathilde Villain.
En Italie, dès l'école primaire, on apprend l'histoire de l'art et peut-être bientôt l'art de boire. Le vin, le raisin font partie intégrante de l'histoire et de la culture du pays, plaide le sénateur épicurien Dario Stefano. Il vient de déposer une proposition de loi en vue de l'introduction de cours d'œnologie dans les programmes scolaires. Idée insolite, mais pas totalement farfelue. À Brescia, dans le nord de l'Italie, et dans les Pouilles, au sud, des cours d'initiation à la culture du vin ont déjà été proposés ponctuellement dans les écoles. Mais restons sobres, il n'y aura pas de dégustation dans les salles de classe. Il s'agit juste de sensibiliser les petits Italiens à toutes les dimensions culturelles, gastronomiques, historiques, sociales liées au vin, dont l'Italie est le premier producteur mondial. Avec 48,5 milliards d'hectolitres produits en 2015 et 20 millions d'hectolitres exportés dans le monde entier, pour la deuxième année consécutive, l'Italie est passée devant la France. Ne manque pas de relever les Italiens avec un orgueil mal dissimulé. Le sénateur Dario Stefano estime en outre que le vin est l'un des rares sujets qui unit les Italiens, du Nero d'Avola sicilien au Gewürztraminer du Haut-Adige, du Barolo piémontais au Canona aux Sardes. Les vins italiens revêtent autant d'identités, de nuances, de saveurs et de terroirs différents, mais participent tous d'une culture commune qui pourrait être enseignée avec modération dans les salles de classe.
Trois ans après avoir été frappé de plein fouet par la crise financière, Chypre vient de se libérer du plan d'assistance internationale qui lui imposait une cure d'austérité. Restructuration du secteur bancaire, baisse des salaires et hausse de la fiscalité. Les conséquences sociales de ces mesures ont laissé des traces, avec notamment une forte hausse du chômage. Pas encore tout à fait sorti d'affaire, mais sur la bonne voie, la partie sud de l'île et ses 900 000 habitants sont déjà cités en exemple par les dirigeants européens. À Chypre, où les voyants sont lentement mais sûrement en train de passer au vert, le reportage d'Alexis Rosenzweig.
Les bureaux de Cobalt, la nouvelle compagnie aérienne chypriote, sont situés à proximité de l'aéroport international de Larnaca. Le premier avion décollera dans quelques semaines et c'est tout un symbole, comme la faillite de la compagnie nationale publique Cyprus Airways début 2015 avait symbolisé l'effondrement de l'économie du pays. Grégory Diakou est le PDG de Cobalt.
Après la crise, le gouvernement n'était plus capable de financer la compagnie aérienne publique. Donc ils ont décidé de cesser ces activités. Mais nous sommes sur une île et c'est très important pour nous d'avoir une compagnie nationale. C'est la raison pour laquelle, avec mon partenaire commercial, j'ai commencé à préparer des études de marché et un business plan pour monter cette société.
Au-delà de la faillite de la compagnie aérienne nationale, la crise chypriote a fait des dégâts à tous les niveaux de l'économie, avec des mesures d'austérité et de nouveaux mots. Haircut est encore sur toutes les lèvres à Nicosie, la capitale. Haircut, c'est le terme qui a servi à décrire la ponction massive dans les épargnes des particuliers.
C'était le 13 mars 2013, un jour que je n'oublierai jamais.
Une banque qui a fermé du jour au lendemain.
Pendant un mois, nous avons dû réapprovisionner les distributeurs automatiques sous les insultes des clients qui avaient perdu beaucoup d'argent et qui faisaient la queue jour et nuit pour retirer 300 euros, le montant quotidien maximum autorisé. Nous, les employés, on a perdu nos jobs et de l'argent, parce que nous étions également des clients de notre banque. Le côté positif est que désormais, les banques et les gens doivent se comporter différemment. Maintenant, les prêts sont accordés de manière plus rationnelle. Ils auraient dû faire ça avant.
Dans la vieille ville de Nicosie, un nouvel établissement ne désemplit pas. C'est la nouvelle brasserie ouverte par Alexis Alexiou avec ses frères et cousins il y a un an, quand obtenir des financements était déjà devenu beaucoup plus compliqué.
C'était très difficile et c'était à un moment où monter une nouvelle affaire à Chypre semblait presque impossible. Mais nous avons beaucoup travaillé pour fabriquer notre propre bière et on est parvenu à convaincre les banques que c'était quelque chose de nouveau, avec du potentiel, au cœur de la vieille ville. On a fini par obtenir l'argent et maintenant on est sûr que ça va marcher.
Hostilité envers la culture de l'assistanat, esprit entrepreneurial très dynamique, ce sont quelques traits de la société chypriote qui ont permis au pays de rebondir rapidement, selon Kosta Pavlovic. Il est consultant et ancien directeur du quotidien Cyprus Mail.
La situation à Chypre par rapport à la Grèce, disons, est très différente. C'est un petit pays, donc les réformes structurelles ont été beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Ça forçait un certain réalisme. La situation d'avant la crise était vraiment une course effrénée à la consommation, des bulles financières, immobilières, qui n'avaient aucune racine dans la réalité. C'est sûr que la crise a été très très dure à frapper. Littéralement, du jour au lendemain, des gens ont perdu des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Chypre s'est retrouvé un peu face à face à une réalité économique et au besoin de se recentrer sur un certain essentiel. Donc il y a eu une remise des pendules à l'heure qui, on hésite à le dire, parce qu'il y a des gens qui ont énormément souffert, mais peut-être à la longue aura été bénéfique pour rééquilibrer l'économie.
Une économie rééquilibrée avec un taux de croissance qui atteint déjà 1,6% et le retour des investisseurs étrangers. Même s'il refuse de révéler le nom du groupe qui a investi dans sa compagnie aérienne, le PDG de Cobalt indique qu'il s'agit de capitaux chinois.
Il s'agit en fait du premier gros investissement à Chypre depuis la crise. Je pense que cela va avoir une influence positive sur le marché et renforcer la confiance des investisseurs. Notre compagnie aérienne va contribuer à améliorer la situation du pays, non seulement en termes de passagers, mais aussi grâce aux dépenses faites sur place et aux impôts payés ici.
Les nouvelles liaisons aériennes devraient profiter à l'industrie touristique, l'un des poumons de l'économie chypriote. Et pour en finir avec les mesures d'austérité, le pays cherche également à tirer profit de réserves de gaz naturel récemment découvertes dans ses eaux territoriales.
Elle est à ce jour la seule femme à jouer de la guitare portugaise, une guitare toute ronde à 12 cordes. Marta Pereira da Costa, 30 ans, a dû prendre des chemins détournés pour accomplir enfin sa passion avec la sortie en mai dernier de son premier album, portrait signé Marilyn Darcy.
À 4 ans, elle apprend le piano, à 8 la guitare. Marta Pereira a bénéficié d'une formation poussée en musique. Mais ce n'est qu'à 18 ans qu'elle démarre l'apprentissage de la guitare dite portugaise. C'est l'instrument de prédilection d'accompagnement du fado en duo avec la guitare sèche classique que les Portugais appellent viola, la viole. C'est le père de Marta, un amoureux fou du fado, qui encourage la jeune fille à se confronter à cet univers masculin. Elle fréquente les maisons de fado, les cabarets ou restaurants où se produisent les chanteurs et les instrumentistes. Marta attend patiemment que l'un ou l'autre la laisse jouer afin de se familiariser avec l'interprétation difficile en public, au milieu de salles bondées et surchauffées où l'on doit réclamer le silence des convives avant d'entonner une mélopée. Marta connaît bien le milieu et préfère ne pas miser son avenir sur l'interprétation de la guitare portugaise. Elle devient ingénieure et exerce le métier jusqu'en 2012, car comme dans le fado, le destin frappe à la porte et la jeune femme rencontre son mari, chanteur de fado. Des jumelles vont naître, puis Marta décide de franchir le pas. Elle quitte son métier pour devenir la première interprète professionnelle au monde de guitare portugaise. D'autres femmes jouent de l'instrument sans toutefois en avoir fait leur métier, comme par exemple Luisa Amaro, qui fut disciple et compagne du grand compositeur de guitare portugaise Carlos Paredes. L'instrument rond et lourd, doté de 12 cordes, a longtemps été tenu éloigné des femmes, aux mains trop petites et aux bras fluets. On les jugeait incapables de résister à l'engagement physique qu'exige la belle guitare. Et Marta Pereira, 32 ans, s'impose sur la scène et lance son disque Terra aux arrangements contemporains.
Après les Bangladais qui se rebiffent contre le racket de la mafia en Sicile, c'est au tour des jeunes palermitains de se rebeller contre une vieille pratique de la mafia, celle des parquet giatori, ces hommes qui proposent aux automobilistes de trouver une place pour leur voiture, Cécile Debarge.
À première vue, on pourrait trouver la tension délicate, ce bras qui s'agite et fait signe à l'automobiliste pour l'extirper de la circulation chaotique de Palerme et lui indiquer une place de parking. C'est une fois descendu de la voiture que le parquet giatori, autrement dit le gareur de voiture, dévoile son visage bien moins délicat et incite l'automobiliste à lui laisser de l'argent. En théorie, juste de quoi prendre un café. En réalité, pour ceux qui ne paient pas, le risque de retrouver sa voiture endommagée ou ses pneus crevés. La pratique n'est pas nouvelle. Ce qu'il est, en revanche, c'est l'humour et l'obstination que mettent de jeunes Siciliens pour la dénoncer. À Palerme, un mouvement citoyen a organisé pour la première fois une cérémonie des Oscars contre le racket de rue. Elle s'appelle les Thermos d'or, en référence aux nombreux cafés censés être offerts aux gareurs de voitures. Parmi les vainqueurs, un journaliste qui imagine comment raconter à un touriste danois cette pratique très méridionale, la ville de Naples, qui est l'une des premières à prendre le problème à bras-le-corps, ou encore le créateur d'une application pour téléphone portable afin de signaler tous les gareurs de voitures illégaux. Au-delà de son caractère humoristique, la cérémonie a lancé un concours vidéo sur le thème des gareurs illégaux afin de sensibiliser la population au phénomène et lui faire prendre conscience qu'il s'agit d'un impôt mafieux et de rackets. Ce dimanche, l'association à l'origine du prix passera l'après-midi au bord de la plage de Palerme afin d'y distribuer des autocollants « Moi, je ne paie pas » que les automobilistes pourront coller sur leur pare-brise.
Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en monde par Françoise Grelot et Guillaume Munier. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.
Le goût du monde.